France Info.
Et comme chaque samedi, bonjour à tous, à 8h30, c'est le 8h30 politique sur France Info à mes côtés. Comme chaque dimanche, Yannick Halimi, bonjour.
Samedi.
Chaque samedi, ça commence bien. Bonjour Yannick.
Bonjour.
C'est l'émotion, rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien aujourd'hui en France, ça je l'ai bien dit. Et vous posez, Yannick, comme chaque samedi, la première question à notre invité, Claude Goasguen, député Les Républicains de Paris.
Claude Goasguen, bonjour.
Bonjour.
Quelques heures à peine après le drame de Trèbes et de Carcassonne, Laurent Wauquiez a commencé à fustiger la politique du gouvernement. Gouvernement en matière de sécurité. Pensez-vous que votre parti et son président ont été à la hauteur dans cette situation ?
Fustiger, c'est un terme un peu fort parce que, en réalité, ce qu'a dit Wauquiez, et il n'a pas été le seul d'ailleurs, c'est Valls, mais même Mme Pécresse, je lisais ses propos. L'unité nationale ne veut pas dire le silence national. Il ne s'agit pas de remettre en cause le gouvernement. On n'a pas demandé la démission du gouvernement. Le Front National l'a fait. Car le Front National a demandé la démission du ministre de l'Intérieur. Il s'agit d'essayer de montrer et d'essayer de voir quelles sont les solutions qui sont souhaitables pour l'avenir. Car il est clair que nous avons des années difficiles qui viennent et certains d'entre nous, moi notamment, nous pensons que le système actuel n'est pas suffisant. Ça ne veut pas dire pour autant que les renseignements n'aient pas fait leur travail, que la police n'a pas fait son travail.
Vous voyez que c'est plus complexe que des critiques intempestives.
Oui, non, mais il n'a pas fait de critiques.
Alors justement, on va l'écouter, Laurent Wauquiez, parce que dans un instant, on va revenir sur les détails de l'enquête, après évidemment les quatre morts de l'Aude. Mais il a dit, Emmanuel Macron, je parle, ils ont été tous les deux victimes, Mireille Knoll et Arnaud Beltrame, du même obscurantisme barbare. Et voici ce qu'a dit Laurent Wauquiez, dont on parlait, au sujet de l'octogénaire, c'était mercredi sur France Info.
Le parcours de Mireille Knoll ne peut pas ne pas nous interroger. Une rescapée de la Shoah, qui a échappé à la rafle du Veldiv, et qui meurt au XXIe siècle, parce que la République n'a pas su la protéger.
Vous êtes d'accord avec ça ? La République n'a pas su protéger ?
Oui, c'est un autre problème. Moi, j'étais à la manifestation, bien entendu. L'antisémitisme, depuis des décennies, malheureusement, croît. Il croit aussi bien dans les gouvernements de droite que dans les gouvernements de gauche, entre parenthèses. L'antisémitisme est un mal qui est récurrent, mais qui est en train de prendre une signification de plus en plus violente, parce qu'au-delà des assassinats, et il y en a, Sarah Halimi, Ilan Halimi, etc., on peut égrener comme ça les assassinats antisémites, il y a l'antisémitisme quotidien. Qui est vraiment un fléau national, pas seulement dans certaines régions, pas seulement à Sarcelles, mais partout, vous avez des petites agressions sur des gamins, des jeunes femmes qui se font insulter en bas de l'immeuble. Donc l'antisémitisme est en train de prendre un chemin qui nous rappelle malheureusement des périodes noires de notre histoire. Et ça, c'est pas une attaque contre le gouvernement, c'est une attaque contre la France en général, et contre la collectivité française en général. Moi, j'ai été très heureux d'être à la manifestation parce qu'il n'y avait pas que des juifs.
Je précise juste que pour Mireille Knoll, ça a été retenu le caractère antisémite par le parquet,
absolument.
Mais que pour l'instant, ça n'a pas encore été reconnu judiciairement. Je précise juste parce qu'il faut le faire.
Écoutez, on peut pas le... Si c'est reconnu, tant mieux, parce que Sarah Halimi en a mis un an à le faire reconnaître, pour des raisons d'ailleurs qui sont des raisons de procédure du droit français. Et je pense que les procureurs, le garde des Sceaux devrait envoyer une circulaire au procureur très rapidement pour demander ce que des sanctions soient rapides. C'est très difficile, vous savez, de condamner les crimes et les délits antisémites, parce que d'abord, les procs sont lents là-dessus, et puis c'est très difficile à mener, parce que les gens ont peur. Les témoins, c'est très difficile de les faire venir. En tout cas, j'espère que cette manifestation aura fait prendre conscience à la France qu'elle est sur le mauvais chemin de l'antisémitisme.
Cet antisémitisme, est-ce que, comme le président du CRI, vous estimez qu'il est niché, porté peut-être même tant à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite ?
Non, je connais bien le président du CRIP. Je crois qu'il s'est un peu trompé sur la signification de la manifestation. Et d'ailleurs, Finkielkraut l'a très bien dit. Moi, je pense que cette manifestation aurait dû admettre tout le monde.
Oui.
Car elle n'était pas politique. Et il ne fallait pas qu'elle le soit.
C'est une marche blanche.
Et dans ces conditions, il fallait admettre les gens. Bon, il y a un certain nombre de gens qui ont été molestés, qui ont été insultés. Moi, personnellement, je l'ai regretté. Et je trouve que la présentation qui a été faite par le CRIF, qui s'est plusieurs fois, d'ailleurs, qui a changé d'avis plusieurs fois dans la journée, n'est pas un bon signe. C'est l'ensemble des Français qui doivent considérer que l'antisémitisme est un fléau, comme le racisme.
Très bien, mais là, je ne vous parlais pas de l'invitation ou pas de Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, de la France Insoumise ou du Front National. Je vous parle des messages, voire des discours portés par soit la France Insoumise, soit le Front National. Est-ce que vous estimez que ces partis-là portent des discours antisémites, notamment le Front National? Est-ce qu'avec Marine Le Pen, c'est vraiment dédiabolisé de ce point de vue-là?
Extrême l'extrême droite, il y en a à l'extrême gauche. L'islamisme est quand même profondément marqué par la guerre contre les juifs. Il y en a partout des antisémites, hélas. Je crains fort qu'il y en ait même dans les gens qui ne parlent pas, même des gens modérés. Vous savez, l'antisémitisme, c'est un fléau considérable lié à Israël. Vous savez, quand vous pensez que les frères Goncourt, qui ont été les parangons de la droite française en 1930, quand vous lisez le journal des Goncourt, mais les cheveux se dressent sur la tête tellement ils sont antisémites. Donc vous avez un antisémitisme diffus très grave, très très grave. Il faut lutter très fort. Et le gouvernement...
De quelle façon ?
Nicolas Sarkozy avait lancé une cellule à Matignon qui va se développer.
Qu'est-ce que vous allez faire, vous, du côté de l'Assemblée ? Vous avez été élu cette semaine, on le précise, vice-président du groupe d'études parlementaires sur l'antisémitisme.
Je viens de vous le dire. Nous allons travailler avec la cellule gouvernementale qui est mise en place. Nous les avons reçus. Nous avons reçu cette semaine. Moi, je vais travailler sur la procédure pénale parce que je trouve que le système anglais est un système plus favorable pour la victime. En France, la victime n'a pas le droit de qualifier le délit d'antisémitisme. En Angleterre, oui. C'est très difficile à faire, mais je le ferai. Je suis juriste. Au moins, mon talent juridique, j'espère, servira à cette belle cause.
Vous, allez-y, Yannick.
Non, je voudrais tout de même, pardonnez-moi, revenir sur le Front National. Est-ce que vous estimez, puisqu'il y a encore assez peu de temps, Jean-Marie Le Pen lui-même a été encore...
Il a été définitivement condamné cette semaine,
condamné, pour propos antisémites et les chambres à gaz. Est-ce que vous estimez qu'avec Marine Le Pen, c'est un élément dont elle s'est totalement débarrassée ou pas?
Je ne crois pas qu'il se soit totalement débarrassé du poison, mais il y a des gens comme Collard qui incontestablement ne peuvent pas être qualifiés d'antisémitisme ou bien d'antisionisme. Donc par conséquent, au fond, vous savez, qu'on soit au Front National ou qu'on soit d'extrême gauche, je n'aime pas le Front National. Donc je ne voudrais pas charger le bateau, mais très franchement, l'antisémitisme est malheureusement beaucoup plus développé que des simples fixations de la droite et de la gauche. Je crois que l'islamisme a réveillé l'antisémitisme en grande partie et la crise économique.
Allez, vous restez avec nous, évidemment, Claude Goasguen. Dans un instant, on reparle de l'enquête après, évidemment, le drame de l'Aude. On va parler également de Nicolas Sarkozy et de la réforme parlementaire sur France Info. D'abord, à 8h40, on retrouve l'info avec Laurent Sénéchal.
Avant le mouvement de grève qui commence lundi à la SNCF, les cheminots veulent sensibiliser les usagers des actions de communication au lieu tout le week-end. Hier soir, le gouvernement a fait machine arrière et n'utilisera pas les ordonnances pour ouvrir le rail à la concurrence. Par ailleurs, la ministre Elisabeth Borne confirme que les cheminots garderont leur statut en cas de départ vers d'autres entreprises que la SNCF. Les salariés de Carrefour sont eux aussi appelés à la grève. Ils ont appris il y a quelques jours une baisse drastique de leur participation au sein de l'entreprise de 610 à 57 € seulement. La direction de Carrefour veut aussi supprimer 2400 postes et revendre les anciens magasins d'IA qui emploient 2100 personnes. Manifestation à Nantes contre les expulsions à l'appel notamment des occupants de Notre-Dame-des-Landes. C'est la fin de la trêve hivernale ce soir. Fin également donc de l'ultimatum adressé par le gouvernement aux opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Le projet a été abandonné. Des dizaines de milliers de Palestiniens se sont pressés hier contre la frontière israélienne dans la bande de Gaza. Les soldats israéliens ont tiré sur la foule. 16 Palestiniens ont été tués. Les affrontements devraient se poursuivre aujourd'hui. La Russie expulse à tour de bras. 50 nouveaux diplomates ont dû quitter le territoire hier. Cela fait 140 depuis le début de la crise avec Londres. Les Occidentaux ont expulsé de leur côté 150 diplomates russes. Mouvement de solidarité avec le Royaume-Uni qui accuse Moscou dans l'empoisonnement d'un ex-espion russe au début du mois sur le sol britannique.
Et après l'attaque terroriste du 23 mars dans l'Aude, l'enquête donc se poursuit et 8h30 politique se poursuit également avec Yannick Halimi et Claude Goasguen. Au sujet de cette enquête, Claude Goasguen, la majorité estime que la loi française est désormais suffisamment armée en la matière, qu'on ne va pas faire une nouvelle loi à chaque attentat. Selon un sondage Odoxa Dentsu Consulting pour Le Figaro et France Info, 61% des personnes interrogées sont favorables à des mesures d'exception face au terrorisme. On va revenir sur ces propositions dans un instant, mais écoutez ce que disait cette semaine à l'Assemblée le Premier ministre Édouard Philippe sur les fichiers S notamment.
Certains nous disent expulsez-les tous. D'autres nous disent enfermez-les tous. Certains disent même les deux à la fois. Dire cela, mesdames et messieurs les députés, c'est méconnaître profondément nos outils de renseignement. La fiche S est un outil de police. Elle n'est pas en elle-même un élément de preuve.
Est-ce que dans l'émotion, il n'y a pas eu un peu une surenchère? Là, vous parliez de Manuel Valls tout à l'heure qui voulait interdire le salafisme. Laurent Wauquiez qui proposait de revenir sur la déchéance de nationalité ou l'état d'urgence. Est-ce que dans l'émotion, on ne va pas un peu dans tous les sens, là, Claude Goasguen?
Non, j'ai entendu ce qu'a dit Philippe, j'étais à l'Assemblée, je trouve qu'il se trompe.
Pourquoi ?
Parce que les fichiers S étrangers, d'abord, peuvent être expulsés sans problème. Mmh. Atteinte à l'ordre public. On peut expulser un étranger très facilement pour atteinte à l'ordre public. Il y a sans doute des fichiers S étrangers qui, à mon avis, ont déjà le panel atteinte à l'ordre public largement dépassé. Parce que dire les fichiers S sont des instruments de renseignement, bien sûr, sont des instruments de renseignement.
Ce sont des éléments de preuve.
Oui, des éléments. Non, ce ne sont même pas des éléments de preuve. Ce sont des fiches de renseignement qui permettent de suivre par la DGSI. Non, ça suffit plus. Tout ça ne suffit plus. En réalité, le fichier S doit être différent et je pense que on devrait reprendre pour le fichier S français, en tout cas ceux qui sont radicalisés, une politique de perquisition administrative qui n'existe plus.
Oui, mais ça, de perquisition administrative, effectivement...
Il y en a plus. Il y en a plus.
Il y en a encore.
Il y en a eu six.
Ce sont des noms différents. Mais même, par exemple, Frédéric Pechnard, qui est membre des Républicains,
oui,
ancien patron.
Mais voilà, lui, il est pour les perquisitions administratives.
Il est pour les perquisitions administratives, mais bien sûr, voilà.
Ça
absolument. Ça, c'est une mesure qui est peut-être...
Ah oui, mais ça transforme le fichier S.
Peut-être possible.
Parce qu'en l'état actuel des choses, regardez celui, l'assassin odieux, il était convoqué dans un mois par la DGSI. Il ne suffit pas d'être convoqué par la DGSI. Il faut dramatiser la situation, car cette situation, elle est désormais terrible, c'est une idéologie mortifère. Et je vais aller même plus loin, je vais vous dire, je crois qu'il faut que la nation tout entière s'en empare. Ça ne suffit pas, la police et la justice. Si les Français croient qu'on va vaincre cette guerre, parce que c'est une guerre, d'un modèle divers, avec la police et la justice, ça ne suffira pas. Il faut que les élus soient concernés. Moi, je voudrais, par exemple, que les élus puissent avoir à leur côté ce qu'on appelait les renseignements généraux dans le temps et qui n'existent plus, c'est-à-dire des gens qui nous permettent...
Qui n'existent plus depuis Nicolas Sarkozy.
Oui, absolument. Ben, il faut le reconstituer.
Il y a une création de police de au quotidien,
oui, mais
avec 10 000 personnes qui vont
être... C'est pas la police au quotidien. Moi, je veux savoir, et vraiment... dans les petites communes, moi je suis parisien, donc c'est un peu différent, mais dans les petites communes, c'est très facile de savoir ce qui se passe. Il faut qu'on ait des correspondants, les élus. Il faut que les Français comprennent qu'il s'agit d'une mobilisation citoyenne contre le terrorisme et contre l'islamisme.
Claude Gouazguen, en un mot, vous me dites oui ou non, est-ce qu'il faut revenir à l'état d'urgence ou pas ?
Moi, je ne crois pas qu'il faut revenir à l'état d'urgence. Voilà, en un mot, je ne crois pas, c'est pas nécessaire.
Vous n'avez pas voté la loi tout de même de sécurité de l'octobre. Vous l'aviez voté,
pas votre
groupe auquel
vous
appartenez.
Oui, absolument, mais il m'arrive d'avoir des positions différentes.
On va parler de Nicolas Sarkozy, on en parlait à l'instant, il est renvoyé en correctionnel donc pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. Quelques jours après sa mise en examen pour possible financement libyen de sa campagne de 2007, certains élus et électeurs républicains défendent son honnêteté, dénoncent un acharnement et d'autres prennent un peu leur distance et en ont assez que leur camp soit associé aux affaires. Vous êtes dans quel camp, Claude Gouazguen ?
Je suis juriste, hélas. C'est un gros défaut. Et je vous dis, franchement, ce passage en correctionnel me paraît tout à fait regrettable. Autant je ne connais pas le dossier sur la Libye, autant celui-là, que je connais un peu mieux, me paraît quand même très faisandé, si vous me permettez. Car vraiment, c'est une affaire qui est une affaire de corruption... qui a été prise par des fichiers à la traîne, vous savez, ce qu'on appelle les écoutes à la traîne. Vous savez ce que c'est quand on prend un avocat qui téléphone à Sarkozy, qu'on inculpe l'avocat. Tout ça n'est pas clair du tout. Il n'y a pas eu d'intervention de Sarkozy pour cette place en faveur du conseiller en question. Tout ça, en réalité, est une mauvaise affaire. Une affaire qui n'ira pas très loin. Et en plus, qui était en pleine procédure. Parce que Sarkozy a fait devant la chambre, son avocat, a déposé devant la chambre d'instruction. Et le même jour où on dépose devant la chambre d'instruction, il y a la mise en correctionnel. Je trouve que là, les magistrats, permettez-moi de vous le dire, parce qu'il m'arrive de temps en temps de dire que les magistrats se trompent. Je crois qu'ils se trompent.
Il y a beaucoup de membres des Républicains qui commencent à prendre explicitement leur distance avec Nicolas Sarkozy.
Oui,
vous les comprenez ?
Vous savez, quand on n'est plus président de la République, on a forcément des gens qui se détachent de vous. Moi, je ne suis pas un sarkozyste ultra, mais je considère que dans cette affaire, Nicolas Sarkozy est injustement traité par les magistrats.
Très bien, on va peut-être aborder la réforme des institutions qui commence à prendre forme.
Doucement.
Tout doucement, mais ça va être précisé la semaine prochaine avec notamment la réduction... Oui, Édouard Philippe va expliciter les mesures qui pourraient être proposées sous forme de réforme constitutionnelle ou devant les parlementaires. Je rappelle très rapidement les dispositions que l'on connaît dans ces grandes lignes, la diminution du nombre de parlementaires, la limitation dans le temps à 3 cumuls en matière d'élection, une dose de proportionnelle également. Le groupe auquel vous appartenez à l'Assemblée nationale est plutôt contre. Et vous, monsieur Goasguen ?
Et moi, je suis contre la proportionnelle. Je vais vous dire tout le reste, bon, on peut en discuter. On
trouve vous abordez votre cinquième mandat de député, par exemple.
Je m'en félicite, et je félicite les électeurs.
Mais vous comprenez qu'on puisse mettre une limite ?
Je le comprends assez mal, mais enfin, à la limite, c'est pas quand même quelque chose qui me dramatise.
Vous voteriez cette mesure ?
Éventuellement, pourquoi pas.
Mais vous êtes contre et vous la voteriez ?
Oui, éventuellement. D'accord. Mais éventuellement, parce que ça me paraît pas fondamental, cette histoire. Moi, ce qui me paraît fondamental, c'est la proportionnelle.
La proportionnelle.
Là, la proportionnelle, je peux pas. Je peux pas.
Quelle
que soit la dose, je peux pas.
Une question de 10,
même une dose homéopathique.
Ça n'existe pas, les doses homéopathiques. Okay. Parce qu'en réalité, avec la diminution du nombre de députés, plus la proportionnelle, vous avez des majorités qui vont sortir, qui vont être soumises à des fluctuations. Et moi, je trouve que l'exemple allemand, l'exemple italien de la proportionnelle ne me convainc pas. Et donc, je suis totalement contre cette procédure. En plus, sur le nombre de députés, moi je regarde le nombre de députés en Allemagne, il y en a plus que nous. Hein. En réalité, nous avons une addition Sénat-députés, il y a beaucoup de sénateurs, qui fait que la bascule va vers la France, mais en réalité, en nombre de députés, nous sommes au-dessous de la plupart des grands pays. Mais enfin, cela étant, ça ne me dérange pas non plus.
Enfin, vous voterez, à part la règle du cumul, vous ne voteriez pas une telle mesure.
Je ne voterai pas, la proportionnelle.
Il semble que vos homologues au Sénat, et notamment le président Gérard Larcher, négocient, lui, serait prêt, sous réserve évidemment de quelques concessions de la part du gouvernement, à signer ces réformes. Pensez-vous ?
Je lui demande de ne pas le faire, car nous n'accepterons pas la proportionnelle. Nous ne l'accepterons pas. Pour moi, c'est le contraire de la Ve République, c'est le contraire de la stabilité des institutions. Tout ce qui se passe en ce moment dans les pays voisins et sous la Ve République nous montre que la proportionnelle n'est pas une solution. Et donc, je ne voterai pas si la proportionnelle, si la proportionnelle n'est pas dans le circuit. Oui, alors je veux bien discuter tout. Bon. Mais non, pas de choses comme ça. Vous savez, le Parlement est déjà suffisamment abaissé avec un exécutif surpuissant sans donner en plus un problème de déséquilibre au sein de l'institution parlementaire.
Et je précise, on va parler de Paris dans un instant, Claude Goasguen. Je précise qu'il y a un très bon dossier dans Le Parisien aujourd'hui sur la réforme parlementaire. Yannick ne me contredira pas. 8h50, l'info avec Laurent Sénéchal.
16 Palestiniens tués hier par l'armée israélienne. Les soldats ont tiré sur la foule qui se pressait à la frontière avec la bande de Gaza. Des dizaines de milliers de personnes protestent, notamment contre le blocus imposé à l'enclave palestinienne. Les manifestations doivent se poursuivre aujourd'hui. La colère des habitants de Sacramento en Californie. Hier, l'autopsie du corps de Stephen Clark a montré que la police avait tiré dans le dos de cet homme noir. Il a été abattu dans le jardin de sa grand-mère il y a 2 semaines. Kim Jong-un poursuit sa politique de détente. Le régime nord-coréen annonce une participation aux Jeux Olympiques de 2020 et 2022. La nouvelle intervient après une rencontre à Pyongyang entre Kim Jong-un et le président du CIO, Thomas Barr. 450 postes supprimés sur 1800, c'est le quart des effectifs de France Loisirs qui est menacé. Le club de livres est en redressement judiciaire depuis le 1er décembre dernier. Son chiffre d'affaires a fondu en quelques mois. Il a baissé de plus de 10% l'an dernier. Les quarts de finale de la Coupe d'Europe de rugby se poursuivent ce week-end. Après l'élimination de La Rochelle hier, Toulon se déplace sur la pelouse du Munster cet après-midi, coup d'envoi à 16h15. Demain, Clermont reçoit le Racing et le Leinster accueille les Saracens.
8h30 politique sur France Info, toujours en compagnie de Yannick Halimi, rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien aujourd'hui en France, et notre invité Claude Goasguen, député Les Républicains de Paris. Alors, pardonnez-moi l'expression, les médias se sont un peu excités la semaine dernière avec ce sondage dans le JDD qui donnait Anne Hidalgo devancée au premier tour par Benjamin Griveaux de La République En Marche. Les municipales 2020 avaient lieu maintenant, on est dans la complète fiction. Écoutez ce que disait Christophe Castaner, c'était chez nos confrères d'Europe sur le besoin, selon lui, d'alternance à Paris. Votre réaction dans un instant.
Ce qu'on voit, c'est le taux d'adhésion des Parisiens à la politique menée par Anne Hidalgo et Anne Hidalgo qui s'effondre. Et donc, il y a un besoin d'alternance fort sur Paris, comme dans beaucoup de communes de France.
Besoin d'alternance, il faut que cette alternance se produise.
Oui, c'est vrai que Madame Hidalgo est en difficulté, mais vous savez, le sondage montre qu'elle n'est pas tellement en difficulté, hein, quand on le lit de très près. Elle est en difficulté.
Et puis c'est dans 2 ans, on le rappelle quand même.
Oui, puis c'est dans 2 ans, puis ça va pas, quoi, Paris, quoi. Entre nous, ça va pas du tout. Ça va pas sur la propreté, ça va pas sur la voirie, ça va pas sur les appels d'offres. Tout foire en même temps là-dedans. Même l'administration parisienne, qui est de grande qualité, commet des bavures qui ne sont pas habituelles à Paris. Alors, Madame Hidalgo en porte la responsabilité. Ma foi, elle a encore quelques années pour essayer de réagir. Mais moi, je suis pas, vous savez, partisan d'enterrer 2 ans avant, hein, les choses. Et puis alors, Castaner est certainement a fait son boulot de secrétaire général d'un parti politique. Mais enfin, quand je vois que tout d'un coup, En Marche, qui ne voulait pas s'occuper de politique, parce que rappelez-vous, l'année dernière, c'était les vertueux. Je prends mon poste et je m'en vais en courant parce que la politique, ça m'intéresse pas, je rentre dans ma tanière. Tout d'un coup, ils veulent s'implanter. Et je trouve que Griveaux, qui est le candidat parisien, il est bien.
Pressenti. Pour La République En Marche.
Écoutez, il vient d'arriver, il était en Saône-et-Loire, c'est bien, il arrive en Saône-et-Loire, il connaît tout. Mmh. Il est député à Paris l'année dernière, il est ministre, donc il n'a pas le temps de s'occuper de sa circonscription, et il nous dit, moi je vais changer Paris. Non, tout ça n'est pas très sérieux. Il faut un vrai programme sur Paris, et les Républicains le font.
Alors justement, Claude Goesgen, les Républicains, qui? Parce que, certes, c'est dans 2 ans, mais on ne voit pas trop de figures. Sortir du lot chez vous. Rachida Dati se dit toujours prête à y aller.
Mais Rachida Dati
est
toujours prête.
Comment voyez-vous, vous? Pardon?
Rachida Dati est toujours prête. Vous savez, Rachida
Dati. Donc pour le moment, il n'y a pas de
candidat. Oui. Non, il n'y a pas de candidat. Nous n'avons pas désigné de candidat. Nous allons travailler. Nous allons faire des propositions. On a l'immense avantage par rapport à En Marche d'être présent sur le terrain depuis très longtemps. Moi, je connais bien les problèmes parisiens. Et très franchement, je trouve que Griveaux est un peu léger en ce moment quand il parle de Paris. Mais bon, on va voir. C'est pas la peine de s'affoler. Paris va mal. Le Grand Paris va changer beaucoup de choses. Et j'attends impatiemment que M. Macron nous dise ce qu'il a envie de faire du Grand Paris. Parce que ça va tout changer. Y compris peut-être la structure électorale parisienne. Mmh. Et le Grand Paris, nous en avons besoin.
Vous, Anne Hidalgo essuie régulièrement de nombreuses critiques, parfois violentes, parfois sexistes, parfois ça va quand même un petit peu trop loin. Vous-même, vous avez déclaré, vous êtes plus élégant, mais vous avez déclaré début mars chez nos confrères du Figaro, il faut se débarrasser, je cite, de cette majorité socialo-écolo-sectaire qui gère Paris avec Hidalgo. C'est pas un peu violent comme formulation?
C'est pas violent contre Hidalgo, parce que moi je n'attaque pas
mais
les
pourquoi
personnes.
Pourquoi sectaire?
Mais parce que, moi, vous savez, cette majorité qui entoure Madame Hidalgo est en grande partie responsable de sa chute dans les sondages. La politique du logement menée par cet adjoint communiste de la période stalinienne et qui se revendique de sa filiation avec les pires moments du Parti communiste en matière de logement est une catastrophe. Les écolos sont partis dans un sectarisme écologique qui nous pousse à n'importe quelle extrémité. Enfin, cette majorité qui enquiquine la mer, d'ailleurs, qui n'est pas toujours facile. Moi, je préfère attaquer une politique qu'attaquer une personne. Je n'ai pas particulièrement d'estime pour Madame Hidalgo, mais je ne suis pas de ceux qui accusent le maire alors que sa majorité la pousse au vide.
Claude Goesgen, pardon de revenir tout de même à des considérations plus politiciennes, mais je reviens quand même au municipal dedans. 2 ans, La République En Marche dit elle-même qu'il n'est pas sûr qu'il y ait un candidat à La République En Marche. Il pourrait avoir un candidat qui pourrait faire le pont avec d'autres partis, comme par exemple les Républicains. Oui. Et on parle de Pierre-Yves Bournazel, qui est aux Républicains il y a peu.
C'est un bon candidat.
Qu'en pensez-vous?
C'est un bon candidat. C'est à mon avis celui chez les Républicains qui en ce moment a le plus la possibilité d'être notre candidat. Le sera-t-il? Je ne sais pas, c'est trop tôt, mais c'est un bon candidat.
C'est un candidat les Républicains, mais enfin qui soutient la majorité présidentielle.
Mais moi je ne suis pas de ceux qui sont des acharnés anti-Macron. Je dis que s'il est possible d'avoir une autre politique en accord avec En Marche, eh bien on le trouvera. Et que si Pierre-Yves Bournazel est capable de faire ce pont avec La République En Marche, tant mieux.
Vous parliez d'Anne Hidalgo, vous l'aviez notamment soutenue face aux forains. Et on a appris quelque chose hier, selon un rapport remis au gouvernement, les Jeux d'été olympiques et paralympiques 2024 pourraient finalement coûter 500 millions d'euros en plus. Vous, écoutez ce qu'on a retrouvé, c'est vous parlez des JO et d'Anne Hidalgo, écoutez.
Je crois que les Jeux Olympiques vont donner à Paris une allure internationale qui est nouvelle. J'ai même félicité Madame Hidalgo qui a eu un rôle important. Je note d'ailleurs qu'on ne parle jamais de Madame Hidalgo du côté de Macron. Regardez les débats, vous verrez que le président Macron essaye de récupérer les Jeux Olympiques.
Alors à l'époque c'était l'été, vous étiez sans cravate. Claude Goesgen, non mais plus sérieusement, les JO, tout était magnifique il y a 6 mois, c'était formidable, et là on commence à se dire que ça va sans doute coûter plus cher. Ça vous inquiète ou pas?
Ça m'inquiète parce que tout ce qui coûte plus cher m'inquiète, mais pour autant, je maintiens mon soutien aux Jeux Olympiques. C'est un grand moment pour Paris. On en a besoin. Paris est une ville qui, malheureusement, n'a plus l'image qu'elle avait il y a 20, 25 ans. Les Jeux Olympiques peuvent redonner un booster à Paris, je m'en félicite. Que ce soit Madame Hidalgo, Monsieur Macron, qui visiblement ne s'aiment pas trop, d'après ce que je crois comprendre, il faut. Les Jeux Olympiques, ça va être formidable.
Bon, en tout cas, merci Claude Goasguen d'être venu ce matin sur France Info, radio et télé. Merci à vous, Yannick Halimi. On se retrouve pas la semaine prochaine, mais celle d'après.
J'ai mis la cravate pour Pâques.
Pour arriver l'épisode de 8h30 politique. Au revoir à Claude Goasguen, au revoir à votre cravate et bonne journée à tous. Merci.
Au revoir.
Merci à vous.